L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Treizième épisode.
De la fameuse aventure de la barque enchantée, et où l'on raconte la chose extraordinaire qui arriva à Don Quichotte et qui peut passer pour une aventure. Sidi Ahmed Ben Engeli raconte que, fort bien traité par son hôte, Don Quichotte passa 4 jours chez Don Diego, au bout desquels il demanda au maître de maison la permission de partir.
Cher Don Diego, je vous remercie chaleureusement pour votre accueil. Mais un chevalier errant ne doit pas se laisser aller à l'oisiveté et à la mollesse. Il est temps pour moi de reprendre les armes et d'aller chercher les aventures qui, dit-on, abondent dans le pays.
Le jour du départ arriva aussi joyeux pour Don Quichotte qu'attristant pour Sancho Panza. Car il avait pris goût à l'abondance qui régnait dans la maison de Don Diego et retourné à contre-cœur aux privations qui sont de règle dans les bois ou autres lieux inhabités et aux maigres provisions de son bissac. Il prit soin néanmoins de remplir celui-ci à ras-bord de tout ce qui lui sembla le plus nécessaire. Puis Don Quichotte et Sancho s'éloignèrent, l'un monté sur Rocinante, l'autre sur le Baudet. Après avoir passé la nuit dans une auberge, tous deux se mirent en route vers les rives de l'Èbre et ses environs, que Don Quichotte avait décidé de visiter avant de se rendre dans la ville de Saragosse. Ils arrivèrent 2 jours plus tard au bord de l'Èbre.
Quel charmant spectacle! Admire, Sancho, la beauté de ces rivages et ces eaux cristallines et paisibles.
Comme ils marchaient, Don Quichotte aperçut une barque sans rame ni agrès attachée au tronc d'un arbre qu'il y avait au bord de l'eau.
Descends de ton âne, Sancho, et attache bien solidement les 2 bêtes au tronc de ce peuplier.
Mais pourquoi, monsieur ?
Sache que cette barque que tu vois là m'invite irrésistiblement à monter à son bord pour aller au secours d'un chevalier ou d'une noble et digne personne qui doit se trouver dans la plus grande détresse. C'est tout à fait dans le style des histoires de chevalerie, dès que les enchanteurs s'en mêlent. Quand un chevalier court un péril dont seul un membre de sa profession peut le délivrer, même si celui-ci se trouve à plus de 3000 lieues de distance, les enchanteurs l'enlèvent sur un nuage ou lui envoient une barque et le transportent en un clin d'œil par les airs ou sur la mer, là où ils veulent, là où son aide est nécessaire. Oui, Sancho, cette barque que tu vois est placé là dans la même intention, aussi vrai qu'en ce moment il fait jour. Laissons-nous guider par la main de Dieu. Je suis résolu à m'embarquer.
Oh, puisque c'est comme ça, monsieur, et que vous vous obstinez à tout bout de champ à retomber dans ce que je ne me permettrai pas d'appeler vos folies, moi je ne peux qu'obéir et baisser la tête. Parce que comme dit le proverbe, fais ce que ton maître te dit, et assieds-toi à table avec lui. Ce qui ne m'empêchera pas de vous déclarer par acquis de conscience que cette barque-là ne m'a pas l'air le moins du monde enchanté. Elle doit appartenir à des pêcheurs de ce fleuve. Monsieur, monsieur, au nom du ciel, revenez à vous. Pensez à votre honneur et ne croyez pas à ces absurdités qui vous ont ramolli la cervelle.
C'est parce que tu m'aimes bien que tu parles ainsi, Sancho. Et comme tu n'as aucune expérience des choses de ce monde, toutes celles qui semblent difficiles à admettre te paraissent impossibles.
Voilà, les bêtes sont attachées, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?
Ce qu'il faut faire ? Le signe de croix et lever l'ancre. Je veux dire, nous embarquer et couper l'amarre qui retient cette barque.
Aussitôt, Don Quichotte sauta dedans, suivi de son écuyer, et coupa la corde. La barque s'éloigna peu à peu de la rive, au grand effroi de Sancho qui se mit à trembler dès qu'il se vit environ 6 pieds du bord. Mais rien ne le chagrina davantage que d'entendre braire son âne et de voir que Rocinante faisait des efforts pour se détacher.
Mon âne se plaint déjà de notre absence. Et Rocinante essaye de se libérer pour courir derrière nous.
Oh, mes chers amis, demeurez en paix. Efface le ciel que la folie qui nous sépare se change en désillusion et nous ramène auprès de vous.
Mais enfin, que crains-tu, espèce de lâche? Pourquoi pleures-tu, cœur de guimauve? Qui te poursuit ou te menace? Tu n'as pas plus de courage qu'un rat de grenier. Que te manque-t-il, miséreux qui nage dans l'abondance? À t'entendre, on croirait que tu gravis pieds nus les montagnes de City, alors que tu es là, assis sur cette planche, comme un archiduc t'abandonnant au cours paisible d'un fleuve qui va bientôt nous mener jusqu'au vaste océan. Bah, sans doute y sommes-nous déjà, car nous avons bien parcouru 700 ou 800 lieues. Si j'avais un astrolabe pour déterminer la hauteur du pôle, je te dirais combien nous avons fait de chemin. Ou je ne m'y connais pas, ou nous avons déjà passé, ou passerons bientôt, la ligne équinoxiale qui se trouve à égale distance des deux pôles.
Et quand on arrivera à cette ligne que vous dites, on aura fait combien de chemin?
Beaucoup. Car des 360 degrés que compte la circonférence de notre globe, terre et mer comprises, d'après le compute de Ptolémée, qui fut le plus grand cosmographe que l'on connaisse, nous en aurons parcouru la moitié quand nous aurons atteint cette ligne.
Oui, dites donc, monsieur, ce témoin que vous me citez n'a pas l'air très recommandable. Compute et j'en passe.
Compute de Ptolémée. Apprends, Sancho, qu'un des signes à quoi les Espagnols et ceux qui s'embarquent à Cadix pour les Indes orientales reconnaissent qu'ils ont franchi la ligne équinoxiale, c'est que tous les poux des gens qui sont sur le navire meurent. On en chercherait qu'on n'en trouverait pas un seul, dût-on le peser au poids de l'or. Promène donc la main sur ta cuisse, Sancho. Si tu tombes sur quelque chose de vivant, nous saurons à quoi nous en tenir. Sinon, c'est que nous avons passé la ligne.
Je crois pas un mot de tout ça, mais je ferai ce que vous voudrez. Et pourtant, je peux vous dire que je n'en ai pas besoin, moi, de ces expériences. Vu que mes yeux me disent que notre barque n'a pas dérivé de plus de 15 pieds, et que nous ne sommes pas à plus de 6 pieds de nos bêtes. Je les vois d'ici, Rocinante et mon âne, qui n'ont pas bougé de l'endroit où nous les avons laissés. Et j'ai beau prendre la mesure de notre vitesse, comme je le fais en ce moment, du diable si nous avançons ou pas d'une fourmi.
Fais la vérification que je t'ai dite, Sancho, et ne t'occupe pas du reste. Tu ne sais pas, toi, ce que sont les colures, les lignes, les parallèles, le zodiac, les écliptiques, les pôles, les solstices, les équinoxes, les planètes, les signes, les points qui mesurent la sphère céleste et la sphère terrestre. Si tu t'y connaissais un tant soit peu, tu verrais clairement quel parallèle nous avons coupé, quel signe nous avons aperçu, quelle constellation nous avons laissée derrière nous. Mais, je te le répète, tâte-toi, cherche bien. J'ai la certitude que tu es plus propre qu'une feuille de papier blanc.
Ou cette expérience ne prouve rien, ou nous ne sommes pas là où vous dites, ni près d'y arriver.
Pourquoi? Tu as trouvé quelque chose?
Plusieurs choses.
Et, secouant ses doigts, il se lava toute la main dans la rivière, tandis que la barque glissait tranquillement au fil de l'eau, sans l'intervention d'une puissance occulte ni l'aide d'un enchanteur invisible, poussé par le courant qui était alors doux et paisible. Sur ces entrefaites, ils découvrirent de grands moulins à eau établis au milieu de la rivière.
Vois, Sancho, la ville, le château ou la citadelle qui apparaît à nos yeux. C'est là que se trouve le chevalier en détresse, ou bien la reine, l'infante, la princesse offensée à qui je suis venu rendre la liberté.
De quel diable de ville, de château ou de citadelle parlez-vous, monsieur? Vous ne voyez donc pas que ce qu'il y a au milieu de l'eau, ce sont des moulins où les gens viennent moudre leur blé?
Tais-toi, Sancho. Ce ne sont pas des moulins à eau, même s'ils en ont l'air. Je t'ai déjà expliqué que les enchantements ont le pouvoir de tout transformer. Je ne dis pas qu'il change un être en un autre réellement, mais en apparence. Comme l'expérience l'a prouvé, avec la métamorphose de Dulcinée, unique refuge de toutes mes espérances.
La barque, qui entre-temps avait gagné le milieu de la rivière, prit une allure plus rapide. Quand les meuniers virent arriver cette embarcation qui risquait de s'engouffrer dans le tourbillon des roues, nombre d'entre eux sortirent au plus vite avec des perches pour l'arrêter. Et comme leurs visages et leurs vêtements étaient blancs de farine, il n'avait pas très bon air.
Malheureux, écartez-vous!
Mais qu'est-ce que vous faites?
Vous voulez vraiment mourir noyé ou mis en pièces par ses roues?
Ne t'avais-je pas dit, Sancho, que l'heure était venue de prouver la force de mon bras?
Mais
vois tous ces félons et malandrins qui se dressent contre moi. Tous ces monstres qui me barrent la route. Ces fastidieuses qui nous font des crimaces. Attendez un peu, coquin, vous allez comprendre. Canaille, vile et perfide. Rendez immédiatement la liberté à la personne que vous retenez prisonnière dans votre forteresse, quelle que soit sa qualité et son rang. Car je suis Don Quichotte de la Manche, surnommé le Chevalier au Lion. Et c'est moi qui, par ordre des cieux souverains, ai mission de mener à bien cette aventure.
Et, sans plus attendre, il tira son épée et se mit à ferrailler en l'air contre les meuniers qui, ne comprenant rien à toutes ces sottises, s'efforçaient de retenir avec leurs perches la barque que le courant traînait déjà dans les remous. Mais ils ne purent l'empêcher de verser, jetant Don Quichotte et son écuyer dans l'eau. Heureusement pour notre chevalier, il savait nager comme un canard. Mais le poids de son armure l'envoya deux fois par le fond. Et si les meuniers n'avaient pas sauté à l'eau pour les repêcher tous les deux, ils y seraient encore. Là-dessus, arrivèrent les pêcheurs à qui appartenait la barque.
Crénom de nom, regardez, c'est notre barque.
Mais dans quel état?
Voleur, payez-nous la barque que vous avez mise en pièce.
Monsieur, calmez-vous, je payerai la barque. À condition que l'on remette en liberté l'un ou les personnes qui sont enfermées dans votre château.
Mais où est-ce que vous avez vu un château? Qui sont ces personnes dont vous parlez, espèce de fou? Vous venez peut-être enlever les gens qui viennent moudre leur blé?
Inutile d'insister, ce serait prêcher dans le désert que de vouloir induire cette racaille à faire le bien par de simples prières. Sans doute, cette aventure a-t-elle mis aux prises deux puissants enchanteurs, dont l'un s'oppose à ce que l'autre tente de faire. Le premier m'a envoyé le navire et l'autre m'a envoyé par le fond. Dans ce bas monde, tout n'est qu'apparence et illusion contradictoire. Dieu y remédiera. Quant à moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Qui que vous soyez, ami emprisonné dans cette forteresse, pardonnez-moi si pour mon malheur et pour le vôtre, je n'ai pu vous délivrer. Sans doute, cette aventure est-elle réservée à un autre chevalier. Sancho, remets 50 réaux à ces messieurs pour la barque.
Encore deux coups comme celui-là et c'est tout notre avoir qui aura coulé.
Les pêcheurs et les meuniers considéraient avec le plus grand étonnement ces deux personnages insolites, ne comprenant toujours rien aux propos que leur tenait Don Quichotte. Et, persuadés qu'ils avaient affaire à des fous, ils s'en retournèrent, les meuniers dans leur moulin, les pêcheurs dans leur cabane. Quant à Don Quichotte et à Sancho, ils allèrent tout tristement retrouver leurs bêtes. Après s'être remis en selle, ils poursuivirent à la hâte leur chemin, afin d'atteindre une auberge qu'on apercevait à environ une lieue de là. Je dis auberge parce que Don Quichotte lui donna ce nom, alors que d'ordinaire, ils prenaient toutes les auberges pour des châteaux. Quand enfin ils arrivèrent, l'aubergiste sortit sur le seuil pour les accueillir.
Monsieur l'aubergiste, pouvez-vous loger deux voyageurs pour la nuit?
Voilà, monsieur, tout ce qu'il vous faut pour vous accueillir aussi agréablement que si vous vous trouviez dans la grande ville de Saragosse.
Ils mirent pied à terre, et Sancho porta son bagage dans une chambre dont l'aubergiste lui confia la clé. Il mena ensuite les bêtes à l'écurie, donna à chacune son picotin, puis le maître et son écuyer se retirèrent dans leur chambre. L'heure du souper arriva. L'aubergiste apporta une marmite encore fumante et ils se mirent à table sans se faire prier.
Voilà. Bon appétit, messieurs.
Sancho, as-tu bien entendu comme moi?
Oui, monsieur.
Pourquoi voudriez-vous d'un moment que nous lisions de telles absurdités? D'ailleurs, quiconque a lu la première partie de l'histoire de Don Quichotte ne pourra prendre plaisir à lire la seconde.
Il n'empêche que nous devrions essayer, car il n'est pas de livre, si mauvais soit-il, qui ne contienne quelque chose de bon. Ce qui me déplaît particulièrement dans cette deuxième partie, c'est que Don Quichotte n'y est plus amoureux de Dulcinée du Toboso.
Oh! Quiconque osera dire que Don Quichotte de la Manche a oublié ou pourrait jamais oublier Dulcinée du Toboso, je lui ferai comprendre à armes égales qu'il est fort loin de la vérité. Non seulement l'incomparable Dulcinée du Toboso ne peut être oubliée, mais dans le cœur de Don Quichotte, il n'y a pas de place pour l'oubli. Sa devise est la constance, et il a fait vœu de garder la foi jurée sans effort et sans se contraindre.
Qui donc nous a répondu?
Qui voulez-vous que ce soit? C'est Don Quichotte de la Manche lui-même, et il peut prouver tout ce qu'il a dit, et même ce qu'il n'a encore pas dit, parce que le bon payeur débourse de bon cœur.
Monsieur, votre personne ne dément en rien votre renommée, et votre renommée ne peut qu'être rehaussée par votre personne. Vous êtes, à n'en pas douter, véritable Don Quichotte de la Manche, étoile et guide de la chevalerie errante. En dépit de celui qui a voulu usurper votre nom et dénigrer vos exploits, l'auteur de l'ouvrage que voici.
Dans ces quelques pages, il y a déjà trois choses que je trouve répréhensibles. La première, ce sont quelques mots que j'ai lus dans le prologue. La deuxième, c'est que l'auteur écrit en aragonais, car il lui arrive d'ignorer l'usage de l'article. Et la dernière, qui prouve toute son ignorance, c'est qu'il s'écarte de la vérité sur un des points les plus importants de cette histoire. Il dit que la femme de Sancho Panza, mon écuyer, s'appelle Marie Gutiérrez, alors que son nom est Thérèse Panza. S'il se trompe sur ce détail capital, il est à craindre qu'il ne commette d'autres erreurs dans la suite de son livre.
Et il se permet d'écrire notre histoire. On peut dire qu'il sait de quoi il parle pour appeler ma femme Marie Gutiérrez. Reprenez le livre, monsieur mon maître, et regardez un peu si je suis dedans, et s'il n'a pas aussi changé mon nom.
D'après ce que vous venez de dire, mon ami, j'en déduis que vous êtes Sancho Panza, l'écuyer du chevalier Don Quichotte.
Oui, c'est moi, et j'en suis fier.
Sachez donc que cet auteur peu connu ne vous traite pas avec les égards que mérite votre personne. Car il vous dépeint comme un glouton, un niais et sans un brin d'esprit. En un mot, très différent du Sancho qui apparaît dans la première partie de l'histoire de votre maître.
Dieu lui pardonne. Il aurait mieux fait de me laisser dans mon coin et de m'oublier. Parce que pour mener la danse, il faut connaître la musique. Et Saint-Pierre n'est à sa place qu'à Rome.
Monsieur le chevalier, nous feriez-vous l'honneur de venir souper avec nous ?
Avec grand plaisir, messieurs. Sancho, régale-toi tout seul avec cette marmite de pied de veau.
Pendant le repas, Don Juan demanda à son invité des nouvelles de Dulcinée du Toboso. Il voulait savoir si elle avait convolé, si elle était enceinte ou déjà mère, ou encore si, étant restée fille, elle répondait dans les limites de l'honnêteté et de la bienséance aux amoureuses pensées du chevalier Don Quichotte.
Dulcinée est chaste et pure, ma constance inébranlable, sa rigueur à mon égard inchangée. Mais ma belle dame a été transformée en grossière paysanne.
Et il leur raconta point par point l'enchantement de Dulcinée. Les deux gentilshommes prirent un extrême plaisir à écouter les étranges aventures de Don Quichotte, tout aussi surpris de ses extravagances que de la manière élégante qu'il avait de les raconter. Tantôt il parlait avec le plus grand bon sens, tantôt il disait de telles sottises qu'il ne savait plus où le situer entre la sagesse et la folie.
Seul Dieu sait s'il y a ou non une Dulcinée en ce monde. Et si elle est ou non imaginaire, ce sont là des choses qu'il ne faut pas chercher à vérifier de manière trop approfondie. Je n'ai ni créé, ni engendré, madame, bien que je la voie dotée de toutes les qualités nécessaires pour être célébrée entre toutes les femmes du monde.
Quand Sancho eut achevé son souper, il alla rejoindre son maître dans la chambre d'à côté.
Par ma foi, ce n'est pas l'auteur de ce livre qui va nous empêcher d'être bons amis. Et puisqu'il paraît qu'il me traite de glouton, je viens m'assurer qu'il ne me traite pas aussi d'ivrogne.
Il le fait souvent. Je ne sais plus à quel propos. En termes malsonnants et fort injustes, si j'en juge par la physionomie du bon Sancho que voilà.
Croyez-moi, messieurs, le Sancho et le Don Quichotte de votre histoire ne doivent pas être les mêmes que ceux de l'histoire écrite par Sidi Ahmed Benedjelli, c'est-à-dire nous deux. Mon maître, vaillant, sage et amoureux. Et moi, amusant et un peu naïf, mais ni glouton ni ivrogne.
J'en suis persuadé. Et si l'on pouvait, on devrait défendre que personne, à l'exception de Sidi Ahmed, son premier auteur, n'écrivit sur le grand Don Quichotte.
Mais dites-nous donc, monsieur le chevalier, quelle sera donc la prochaine étape de votre voyage ?
Je me rends à Saragosse pour participer aux joutes de Saint-Georges que l'on y célèbre chaque année.
Figurez-vous que dans la nouvelle histoire de vos exploits, Don Quichotte, ou celui qui porte son nom, paraît dans cette ville à une course d'anneaux.
Hein ?
Épisode dépourvu d'intérêt, pauvre de style, encore plus pauvre dans la description délivrée, mais particulièrement riche en niaiseries.
Voilà une bonne raison pour que je ne mette jamais les pieds à Saragosse. Cela prouvera à tout le monde que cet historien-là ment et que je ne suis pas le Don Quichotte dont il parle.
Excellente idée. D'ailleurs, il y a aussi des joutes à Barcelone, où un chevalier comme vous pourra démontrer toute sa vaillance.
C'est donc à Barcelone que je me rendrai. À présent, je vous demanderai de la permission de me retirer, car il se fait tard et je vais me coucher. Veuillez, messieurs, me compter désormais parmi vos plus fidèles serviteurs et amis.
Et moi aussi. Je pourrais toujours être utile à quelque chose.
Là-dessus, Don Quichotte se retira avec son écuyer, laissant Don Juan et Don Jeronimo fort étonnés de ce mélange de sagesse et de folie qu'il y avait en lui. Ils furent convaincus que le vrai Don Quichotte et le vrai Sancho étaient bien ces deux-là, et non ceux qu'avait dépeints l'auteur aragonais.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Un feuilleton adapté par Juliette Eman. D'après le roman de Miguel de Cervantes. Traduit par Aline Schulman. Et publié aux éditions du Seuil. Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Soit à cause de la fraîcheur du matin qui commençait à se faire sentir, soit qu'il eût mangé quelque chose de laxatif, soit, et c'est le plus probable, par un effet de la nature, Sancho eut envie de faire ce qu'un autre n'aurait pu faire pour lui. Mais si grande était sa peur qu'il n'osait s'écarter d'un pouce de son maître. Quant à essayer de se retenir, c'était impossible. Alors, pensant tout arranger, il lâcha l'arçon arrière qu'il tenait de la main droite et, discrètement, sans faire de bruit, détacha l'aiguillette qui soutenait à elle seule ses culottes, de sorte qu'elles lui tombèrent aussitôt sur les talons et lui restèrent aux pieds comme des entraves. Après quoi, il releva sa chemise du mieux qu'il put et mit à l'air ses deux fesses qui n'étaient pas petites. Cela fait, et lorsqu'il croyait avoir achevé le plus difficile pour sortir de cet embarras cruel et pressant, il en survint un autre plus terrible encore. Il lui parut qu'il ne pourrait se soulager sans laisser échapper quelques sons plus ou moins violents. Il serra les dents, remonta les épaules en retenant son souffle de toutes ses forces. Malgré toutes ses précautions, la malchance fit qu'il ne put s'empêcher de faire un peu de bruit bien différent de celui qui provoquait sa frayeur.
As-tu entendu, Sancho ? Qu'est-ce que cela ?
Oh, je ne sais pas, monsieur. Ça doit être encore quelque chose de nouveau, parce qu'une aventure comme un malheur ne vient jamais seule.
Puis, il fit une nouvelle tentative, et cette fois avec tant de succès que, sans rien ajouter au premier bruit qui lui avait échappé, il fut libéré du fardeau qui lui avait causé tant de soucis. Mais Don Quichotte n'avait pas le nez moins fin que l'oreille, et comme Sancho était resté cousu à lui et que certaines vapeurs montaient presque en ligne droite, elles lui parvinrent inévitablement. Dès qu'il les eut senties, il n'eut d'autre recours que de se boucher le nez avec deux doigts.
Il me paraît, Sancho, que tu as très peur.
Oh, c'est bien vrai, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous le fait penser en ce moment plutôt qu'à un autre ?
Parce qu'en ce moment, tu sens particulièrement fort et ce n'est pas de l'embrun.
Peut-être bien. Mais c'est de votre faute, monsieur. Vous n'avez qu'à pas m'amener à une heure pareille dans des endroits inconnus.
Retire-toi de 3 ou 4 pas, mon ami.
Oh.
Et désormais, surveille un peu plus ta personne. Et observe les égards que tu dois à la mienne. La trop grande liberté que je te laisse prendre avec moi est la cause que tu te laisses aller à pareille irrévérence.
Oh, je parie, monsieur, que vous vous imaginez que j'ai fait quelque chose qu'on ne doit pas faire.
Sancho, ce sont la matière qu'il vaut mieux ne pas remuer.
13e épisode. Avec Daniel Kenningsberg, Bernard Ménez, Laurent Ferraro, Thomas Pouget, Sam Sally, Malo de la Tulay, Grégoire Lagrange, Joseph Fourez, Louis-Marie Audubert, Vincent Domenac, Franck Molinaro, Damien Gouy et Emmanuel Lemire. Musique originale, Sébastien Schouler. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier.